Pour tous les amoureux du jazz, Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Artichaut disait: j'ai le sentiment d'avoir créé quelque chose d'authentiquement américain, qui continue et continuera que je sois ici ou pas. Il était en fait le roi du middle jazz. Ce terme que l'on traduit par jazz du milieu s'applique au swing qui a connu son âge d'or après le style Nouvelle-Orléans et avant l'émergence du bop, c'est-à-dire du début des années 30 à celui des années 40. Artichaut, parmi d'autres musiciens, l'a porté à son apogée. C'était un musicien cool avant la lettre. Nous commençons cette émission qui lui est consacrée avec l'une de ses nombreuses compositions, Special Delivery Stomp, qu'il joue ici avec son artichaut and his Gramercy 5. Ce stomp délicieusement débridé vaut non seulement par le jeu du clarinettiste, mais encore par les interventions classico-baroques de Johnny Guarnieri, premier claveciniste de l'histoire du jazz. Special Delivery Stomp. Certains critiques ont pu dire qu'Artichaut avait eu parfois tendance à suivre le chemin qui avait valu la gloire au premier maître du middle jazz. Or, si son enregistrement de Lady Be Good reflète par instant la musique de Count Basie, et si certains autres font irrésistiblement penser à Benny Goodman, l'ensemble de son œuvre, réalisée en combo ou en grand orchestre, le place parmi les créateurs les plus originaux de l'air swing. Comme clarinettiste, il lui a fallu se distinguer de Benny Goodman. Il y est parvenu en développant un phrasé que l'on peut qualifier de lyrique et une sonorité riche qui, à la différence de celle du roi du swing, flirte souvent avec la musique exotique. Frenesi et Indian Love Call ou encore Concerto for Clarinet sont des exemples de la volonté du clarinettiste d'enrichir son propre langage musical. À cela s'ajoutent quelques références évidentes aux maîtres de la Nouvelle-Orléans tels que Jimmy Noon et dans une moindre mesure Sidney Bechet aussi. Écrit par Cole Porter, Begin the Begin est peut-être le titre le plus célèbre d'Artichaut. C'est en tout cas celui qui lui vaudra une popularité égale à celle de Benny Goodman et de Glenn Miller. La clarinette du leader, soutenue par l'orchestre, est d'une beauté saisissante et prouve, comme l'a écrit Joachim Ernst Behrendt dans son grand livre du jazz, que Shaw privilégie une certaine sensibilité impressionniste, tout en préservant la vigueur puissante des grandes formations de swing. C'est surtout comme chef d'orchestre qu'Artichaut a été un novateur, et pas seulement parce qu'il a été l'un des tout premiers à engager dans sa formation des instrumentistes ou des chanteuses de couleur. Il a su tout d'abord utiliser les cordes. Le premier orchestre avec la joie en public était constitué d'une section rythmique et de 4 instruments à cordes. Le premier ensemble avec lequel il enregistrait était composé de 2 sections mélodiques, une de cuivre, trompette, trombone, sax ténor et clarinette, et une seconde de cordes, 2 violons, un alto et un violoncelle. De la rencontre entre 2 mondes sonores que tout jusque-là opposés, est né un jazz à la fois dansant, romantique et élaboré dans ses arrangements. Il a tracé en partie la voie au chef d'orchestre Stan Kenton, voire aux musiciens d'avant-garde comme Son Ra et Ornette Coleman. Il ne faudrait donc pas réduire le rôle d'artichaut à celui de simple artisan, même glorieux, du swing. Si son nom reste évidemment attaché à cette musique énergique et dansante, le jazzman a d'abord aimé jouer avec la sonorité. Il suffit de citer le rôle tenu par le claveciniste Johnny Guarnieri, tout particulièrement au sein de Gramercy Five, pour s'en convaincre. La musique d'artichaut sera toujours stupéfiante de modernité. Au-delà des influences déjà évoquées, elle annonce le cool jazz d'un Miles Davis ou d'un Jerry Mulligan, Cannonball Adderley. Note à ce propos, artichaut demandait à la section de sax d'obtenir un vibrato à l'unisson. Notons enfin, et contrairement à ce qui a été souvent avancé, que le chef d'orchestre est entouré d'excellents solistes, instrumentistes et chanteuses. Outre Johnny Guarnieri, il faut reconnaître le talent des trompettistes Hot Lips Page et Roy Little Jazz Eldridge, sans parler des chanteuses merveilleuses Billie Holiday et Lena Horne. Voici de nouveau le Gramercy Five avec cette version de My Blue Heaven. Artichaut en réalisera plusieurs. S'affirme un certain nombre de caractéristiques que l'on retrouvera tout au long de la carrière du jazzman. L'élaboration des arrangements marqués par l'étroite et minutieuse liaison entre les solos et les parties orchestrées. Le recours répété à des effets des plus saisissants, comme ces moments de suspense arythmique, lesquels engendrent une nouvelle irruption du beat. Et l'exploitation intelligente d'une large gamme de sonorités, anticipant de quelques années, comme nous l'avons déjà mentionné, le cool jazz. Les éditions Atlas, dans leur collection d'anthologie Jazz et Blues, font la part belle à un musicien très lié avec artichaut. Engagé au début des années 40 au sein de son Gramercy Five, John Guarnieri est loin d'être un inconnu dans le monde musical. Descendant des luthiers Guarnieri, Son père est lui-même un fabricant célèbre de violons. Le claviériste, né à New York le 23 mars 1917, s'est initié au jazz grâce à l'écoute de pianistes comme Fats Waller. Après qu'il eut joué dans différents orchestres new-yorkais, sa carrière prend une nouvelle dimension lorsque Benny Goodman recourt à ses services en 1939. Pourtant, l'année suivante, il commence à faire parler de lui en entrant dans la formation d'artichauts. Il est le premier claviériste de l'histoire du jazz à utiliser un clavecin. Il enrichit la des Gramercy Five de climat classico-baroque, comme en témoigne Concerto for Clarinet, Summit Bridge Drive que nous allons écouter, ou bien Special Delivery Stomp. Ces nouvelles sonorités contribueront pour beaucoup à son succès. Pendant les années 40, Johnny Guarnieri multiplie les collaborations avec les noms les plus célèbres du jazz classique. Ainsi, après avoir retrouvé Benny Goodman, puis de nouveau Artie Shaw, il enregistre avec Jimmy Dorsey et son grand orchestre, ce qui ne l'empêche pas de jouer avec Lester Young sur la scène de l'Onyx, ni de travailler avec Coleman Hawkins, Ben Webster et même Louis Armstrong. Reconnu comme un musicien et un arrangeur de tout premier plan, Guarnieri entamera une longue et fructueuse collaboration dans les années 60 avec la radio et la télévision, une fois installé en Californie. Il gardera néanmoins le contact avec le public en se produisant régulièrement dans les clubs, où son sens inné de l'improvisation fera des merveilles. Guarnieri, qui est toujours resté sous la bénéfique influence de Fats Waller, a écrit un concerto pour piano, lequel connaîtra un certain succès au début des années 70, en raison surtout de ses audaces rythmiques. Ce grand novateur des claviers s'est éteint dans le New Jersey en 1985. Outre Artie Shaw, le Gramercy Five comprend Billy Butterfield, trompette, Johnny Guarnieri, clavecin, Al Henrikson, guitare, Jude the Note, basse et Nick Fatoul, batterie. Les sonorités exprimées par les instruments confèrent à ce titre une chaleur particulière. Certains critiques ont même vu dans Summit Ridge Drive le morceau le plus moderne d'Artie Shaw. Mais dans ces années-là, l'Amérique sombre dans la paranoïa McCarthyste. C'est une tempête sur Hollywood. Cette inquisition aboutit en 1951 à la condamnation à mort des époux Rosenberg pour espionnage au profit de l'URSS. Elle touche également le monde du spectacle. Dès 1947, la commission sénatoriale dénonce les opinions subversives de nombreuses personnalités d'Hollywood, producteurs, réalisateurs, scénaristes ou acteurs. Certains d'entre eux, interrogés à huis clos par le comité, se poseront en ardent défenseurs des valeurs démocratiques américaines, comme Jack Warner, Louis B. Mayer, Walt Disney, Robert Montgomery et Gary Cooper. Mais d'autres dénonceront ou refuseront de répondre, comme le scénariste John Howard Lawson et le réalisateur Edward Mitrick. D'autres enfin, au premier rang desquels Humphrey Bogart et Lorraine Bacall, organiseront une marche de protestation contre cette chasse aux sorcières indigne d'un pays comme les États-Unis. Le jazz, lui non plus, ne sera pas épargné par cette paranoïa McCarthyste. Artichaut tout particulièrement, alors qu'il avait fait montre d'un louable patriotisme dès l'entrée en guerre des États-Unis, devra comparaître devant le comité en 1953. Accusé d'avoir assisté quelques années plus tôt à 4 meetings du Parti communiste américain. C'est d'ailleurs dégoûté par de telles pratiques qu'il quittera son pays au milieu des années 50. Concerto for clarinet. C'est une pièce musicale qui fait dialoguer un ou plusieurs instruments avec l'orchestre afin de mettre en valeur la virtuosité du soliste. Le Concerto for clarinet d'Artichaut ou le Concierto de Aranjuez, réinterprété par Miles Davis, sont deux exemples de transposition dans le jazz. À l'origine, Artichaut a interprété cette superbe pièce musicale sous le titre de Swing Concerto dans le film Second Chorus qu'il a tourné avec Fred Astaire et Burgess Meredith sous la direction de H.C. Potter. Rebaptisé Concerto for Clarinet, il devait l'enregistrer ensuite avec le Gramercy Five. On retrouve certes ici le swing et la richesse des climats caractéristiques de l'œuvre de Shaw, mais c'est d'abord la virtuosité du clarinettiste qui force l'admiration. En voici la seconde partie. Thank you. Frénésie, ce titre écrit par Artichaut tandis qu'il se trouvait au Mexique est révélateur de sa volonté de se distinguer des autres leaders des grands orchestres swing, qu'ils soient blancs ou noirs. Cette œuvre musicale illustre la brève histoire d'amour entre le jazzman et l'actrice Lana Turner. Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro, enregistré et réalisé pour vous par Roland Richard dans les studios du Rocasse de Radio Grand Ciel.